C'est un rappel de toutes les vérités qui ont été enseignées dans l'Église. C'est ce qu'on appelle le magistère ordinaire, le premier étant le magistère extraordinaire. Or, ces deux magistères, l'extraordinaire et l'ordinaire, sont infaillibles tous les deux. Le magistère ordinaire étant tout simplement plus difficile à manier, parce que si je lis le texte, il faut une culture religieuse pour comprendre ce qu'il y a derrière les phrases. C'est toute la tradition de l'Église, dont je parlerai dans un instant, qui se trouve là derrière. Pastoral, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien là, je prends mon temps, parce que je suis moins certain. Je crois voir ce que c'est. Prenons par exemple le Concile de Trente. Il a été dogmatique et aussi très doctrinal. Nous ne dirons pas qu'il a été très pastoral. Il comptait pour cela sur les évêques dans leur diocèse et les curés dans leur paroisse et sur les prêtres ailleurs que dans leur paroisse. Le Concile de Trente, en particulier, a demandé qu'on compose un catéchisme à l'usage des fidèles. Alors voilà le côté pastoral. C'était un côté paraconciliaire, si vous voulez. Le Concile, c'était un certain nombre d'évêques et de théologiens, et ces évêques et théologiens ont composé des textes très théologiques qui ne s'adressaient pas à la foule. On comptait pour cela sur le catéchisme. Le Concile de Trente, par exemple, est dogmatique. Le dernier Concile a voulu être pastoral, c'est-à-dire qu'il a voulu s'adresser directement aux chrétiens et même aux non-chrétiens. Il a voulu faire directement le travail. Il n'est pas mauvais en soi, bien sûr, je ne sais pas s'il a bien réussi. Mais enfin, c'est une bonne intention. J'espère que c'est clair dans votre tête. Dogmatique, on tranche. Doctrinal, c'est le magistère ordinaire. Et puis pastoral, c'est autre chose. Le deuxième concile Vatican comporte des textes doctrinaux. Il a aussi d'autres textes qui sont pastoraux. Il n'a tranché sur aucun point. Il y avait des dogmes depuis un certain temps. Il y a des constitutions doctrinales, par exemple la constitution Lumen Gentium, puis il y a des déclarations qui sont purement pastorales. Il y a aussi la constitution qui se dit pastorale, c'est-à-dire la constitution Gaudium et Spes. Arrête. Elle s'adresse aux gens. Tout cela pour que ce soit clair. J'aimerais, par exemple, lorsque vous parlerez du dernier concile, que vous n'en parliez pas n'importe comment. Parce que l'on dit quelquefois n'importe quoi. Historiquement parlant, on pourra peut-être dire un jour que cela a été un échec. Je n'en sais rien. Mais ceci dit, passons à la suite. Je vous ai annoncé le texte, le titre, et voici le plan limpide. Je vous ai dit que les sources du dogme étaient l'écriture et la tradition. Je traiterai de la tradition dimanche prochain, je le sens. Je traiterai aujourd'hui de l'écriture. J'essaierai de faire le tour de ce que je voulais dire. Nous parlerons d'abord des appellations diverses de l'écriture. Comment l'appelle-t-on actuellement? De différentes manières. Nous parlerons ensuite de l'inspiration. Je vous la définirai et je vous la décrirai pour que vous compreniez. Nous parlerons ensuite des conséquences de l'inspiration, d'une des conséquences de l'inspiration qui s'appelle l'inhérence. Et puis nous traiterons de quelques questions annexes. Par exemple, quel texte a-t-il été inspiré? Est-ce que c'est la traduction du chanoine Hostie ou bien la Bible latine dite Vulgate? Nous parlerons des limites de l'inspiration. Je vous dis tout de suite que l'inspiration n'a pas de limite. Toute l'écriture est inspirée. Mais enfin, je vous le répéterai tout à l'heure. Et puis nous terminerons en traitant du canon des Écritures. Et je vous donnerai la liste des livres qui sont inspirés. Pourquoi on a décidé que c'était ceci et pas d'autres? Alors, écriture et tradition, je vous ai dit il y a un instant que pour moi, il y avait une seule source du dogme, parce que on en discute, mais enfin, je ne crois pas me tromper. Pour moi, il n'y a qu'une source du dogme, c'est la tradition. L'écriture faisant partie de la tradition. Alors tout de suite, avant de traiter de la tradition, la semaine prochaine, je vous dis tout de même ce qu'elle est, pour que ce soit clair. La tradition se confond avec l'Église. L'Église et la tradition, d'une certaine manière, c'est pareil. Ce ne sont pas des traditions avec un petit t, des traditions au pluriel, c'est l'avis de l'Église, pour vous, c'est l'avis, V-I-E, de l'Église. Pour vous faire comprendre, je respire et je suis en vie. Et puis un beau jour, je suis allé à l'école maternelle, on m'a fait dessiner des poumons. C'est plutôt à l'école communale, l'école primaire. Et on m'a dit comment cela fonctionnait. Mais je respirais avant cela. Je n'ai pas attendu qu'on me dise comment cela se passait. Alors la tradition, si vous voulez, c'est cela. L'Église vit depuis qu'elle existe, et au cours des siècles, eh bien, elle cherche à voir comment elle vit. Elle est parfois obligée de remonter très haut, parce qu'elle ne sait pas trop, elle vit, mais elle ne sait pas comment elle vit. Je prends un exemple. À plusieurs reprises, au XVIe siècle, certains ont prétendu qu'il ne fallait pas baptiser les enfants, qu'il fallait attendre qu'ils fussent adultes. On le dit en ce moment encore, quelquefois. Il y a des erreurs comme cela qui ressortent de temps en temps. Alors que fait l'Église à ce moment-là? Elle est d'abord interloquée un petit peu, comme si à l'âge de 7 ans on m'avait dit « Tu sais ce que c'est que la respiration ? Eh bien, tu ne respires pas. » Je me serais dit peut-être « Je ne respire pas après tout, mais ça me paraît bizarre. » Et j'aurais consulté les compétences. Quelqu'un dit « Il ne faut pas baptiser les enfants. » Mais l'Église est interloquée, elle se dit « Il me semble que je baptise les enfants depuis que j'existe. » Alors on étudie ce cas. Dans les tout premiers siècles ou dans les premiers temps de l'Église, on baptisait les enfants. On va chercher, baptisait-on les enfants? Voilà la question. On va chercher les pères de l'Église qui nous sont témoins de ce qui se passait. On découvre que dans les tout premiers siècles de l'Église, on baptisait les enfants. Alors l'Église dit, déclare, voilà, on a décidé de continuer. Et pourquoi est-ce que je crois que tel ou tel livre de l'Écriture sont inspirés? C'est parce que l'Église me dit qu'ils le sont. C'est pourquoi je le dis. L'Écriture est un chapitre de la tradition. Allez. Vous savez que les protestants mettent la Sainte Écriture, ils préfèrent dire la Bible, à la place de l'Église. Et si vous leur demandez pourquoi est-ce que vous croyez que l'Évangile de Saint Matthieu, ils disent Matthieu et pas Saint Matthieu, est inspiré, ils vous répondent « C'est parce que l'Église des premiers siècles me l'a présenté comme telle. » Ils font finalement intervenir l'Église quand même. L'Église, bien sûr, pour eux s'est trompée ensuite. Elle s'est égarée. Ils ont rompu le fil. Mais... Voilà, passons maintenant à l'appellation des textes. Je vous ai dit il y a un instant que les protestants préféraient dire la Bible. La Bible, c'est un mot catholique, nous employons le mot également. Mais dans l'Église, habituellement, on préfère d'autres expressions. On dit la Sainte Écriture, les Saintes Lettres. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans mes sermons, je parle de la Sainte plus volontiers, ou de l'Écriture Sainte. Mais voilà que j'en arrive maintenant à cette chose essentielle qui s'appelle l'inspiration. Vous savez que l'Écriture est aussi inspirée. Alors j'ai copié de l'autre côté de mon papier la définition de l'inspiration, parce que je ne la sais pas par cœur. Je vais vous la lire deux fois. Et puis ensuite j'expliquerai, non pas que vous soyez bête, mais c'est plein de nuances. Comme ce qu'enseigne l'Église, et l'Église est pleine de nuances parce qu'elle enseigne des choses si supérieures, si supernelles, elle est obligée de ne pas gâter la vérité, d'utiliser un adjectif par-ci, un adverbe par-là. Alors écoutez cela. C'est tiré de l'encyclique Providentissimus de Pie XII. L'inspiration est une intuition surnaturelle par laquelle l'Esprit Saint a poussé et excité les écrivains sacrés à écrire et les a assistés pendant la rédaction de telle sorte qu'ils concevaient exactement pour les rapporter fidèlement et exprimer avec une vérité infaillible tout ce que Dieu ordonnait et seulement ce qu'il leur ordonnait d'écrire.
Oui.
Je relirai cela tout à l'heure. Cela me paraît fort compliqué. Vous comprendrez mieux ensuite. Je vais vous dire d'abord ce que n'est pas l'inspiration. L'inspiration n'est pas une dictée. Autrement dit, ce n'est pas une révélation. Imaginez que tout à coup, j'ai une révélation. Je m'interromps et je vous dis pas de bruit. Et au fur et à mesure que la Sainte Vierge me parle, je vous reproduis exactement ce qu'elle m'a dit. Ça, c'est une révélation, c'est une dictée. Les artistes qui nous représentent Saint Matthieu, Saint Luc, Saint Jean, vous les représentent souvent comme des gens qui écrivent sous la dictée. On voit par exemple Saint Matthieu, le regard tourné vers le ciel, dans une position magnifique, avec un drapé terrible et une plume à la main. Et lui, il n'avait pas de plume, mais un stylet. Et il y a un ange qui dit des choses, et au fur et à mesure, sa plume écrit, et cra-cra-cra-cra dans un grand livre. Ce n'est pas cela l'inspiration. Je vais essayer de vous dire ce qui se passe. Prenons par exemple Saint-Marc. Avant de parler de Saint-Marc, imaginez que j'ai un tableau noir. Et j'arrive, j'écris au tableau. J'ai deux craies. J'ai une craie blanche et une craie rouge. J'écris Montarien avec la craie blanche et je trouve que ce n'est pas assez joli. Je prends la craie rouge et j'écris Montarien. C'est plus joli. Vous pourrez me poser la question suivante. Qui a écrit ? Je réponds tout de suite, bien sûr c'est moi. Quelqu'un dirait, c'est blanc, c'est la craie blanche. Et si c'est rouge, c'est la craie rouge. Et je suis obligé de répondre, mais oui, la craie, c'est elle qui a écrit. La craie blanche ne s'est pas fait aider pour écrire par la craie rouge. Et la craie rouge ne s'est pas fait aider pour écrire par la craie blanche. Et quand je dis la craie blanche, c'est la craie blanche tout entière qui écrivait, sans se faire aider de l'autre. Vous allez voir qu'il y a deux niveaux. Le niveau de l'agent et le niveau de l'instrument. Je suis, moi, au niveau de l'agent. C'est moi qui fais tout quand j'écris Montarien. Mais la craie rose, par exemple, fait tout, elle-même, à son niveau, quand elle écrit Montarien. Et la craie blanche, de même, dans son coin. Avec l'écriture sacrée, c'est pareil. Sinon que les auteurs sacrés sont des instruments libres, et c'est une grosse différence. Ce que je vous raconte là, c'est pour que vous compreniez que l'évangile de saint Matthieu, que je prends comme exemple, a tout entier Dieu pour auteur, mais il a aussi tout entier Saint-Marc pour auteur. Dieu, c'est le niveau de l'agent, Saint-Marc, c'est le niveau de l'instrument. Mais encore une fois, cet instrument est libre. Il peut bien sûr ne pas savoir du tout qu'il est inspiré. Ce n'est pas une révélation, comme je le disais. C'est ainsi que l'Église dira que ce texte est inspiré. Il a circulé dans les premiers siècles de l'Église des quantités de textes que l'Église n'a pas retenus, et c'est pourquoi d'ailleurs ils se sont perdus. Nous savons par exemple que saint Matthieu, avant d'écrire son évangile grec, a écrit un évangile en araméen, que nous ne possédons pas, et qui était fort différent probablement. L'Église a retenu ce remaniement grec. Il est peut-être de lui, peut-être d'un autre, il s'est peut-être fait aider, on ne sait pas trop. Et c'est l'Église qui a retenu ce Matthieu grec. L'autre a disparu, parce que n'étant pas reconnu inspiré par l'Église, on a cessé de le recopier. N'ayant pas été retenu par l'Église, il s'est donc perdu. Si un jour on le retrouve, ce n'est pas impossible, cela aurait un gros intérêt scientifique. On pourrait faire des comparaisons, mais cela ne le rendrait pas plus inspiré pour cela. Alors voyons Saint-Marc. Saint-Marc est comme la craie rose qui était rose. Saint-Marc conserve son tempérament impulsif, imaginatif. C'est son bon côté. Il a commencé d'écrire parce qu'on lui avait demandé de le faire. Il est resté ce qu'il était. Bref, la craie rose est rose. Elle est blanche. Saint-Marc garde tout son tempérament. S'il n'est pas instruit, il ne l'est pas trop. Cela transparaît, cela se voit très très bien. Il a ses qualités et ses défauts. Dans la Sainte Écriture, vous avez des textes qui sont prestigieux. C'est de la bonne littérature. Par exemple, le Cantique des Cantiques. C'est de la poésie. De la belle poésie. Pas n'importe quoi. Un peu surprenante parfois. Mais en principe, la poésie, c'est forcément surprenant. Le prophète Isaïe est extraordinaire. Les deux ou trois prophètes Isaïe, parce qu'il y en a deux ou trois dans le même texte, ils ont été regroupés là dans les prophéties d'Isaïe. Ils se sont unis à plusieurs et non pas à la même époque. Et ils ont tous beaucoup de talent. Je préfère le premier. Mais vous avez des textes qui sont moins reluisants. Je n'ose pas vous en citer, mais il y en a. Si je le peux, à la rigueur. Je lis en ce moment chaque jour un petit morceau du livre des chroniques, appelé aussi Paralipomène. Parce que depuis que je suis entré au séminaire, je fais une petite lecture biblique tous les jours. Eh bien, je dirais que le second livre des Paralipomènes ne paraît pas transcendant, du point de vue littéraire. Le niveau de l'agent, le niveau de l'instrument, alors, comment s'y prend-on ? Dieu s'y prend comme il s'y prend pour toute chose, par le jeu de la Providence. Saint-Marc est à Rome. Il connaît depuis très longtemps Saint-Pierre. Il l'écoute depuis très très longtemps. si longtemps qu'il sait presque par cœur ce que Saint-Pierre enseigne, et les gens s'en rendent compte. Un beau jour, ils viennent trouver Saint-Marc et lui disent « Quand Saint-Pierre ne sera plus là, nous n'aurons plus ses enseignements. Toi qui les entends depuis très longtemps, ne pourrais-tu pas les coucher sur le papier, ces choses ?» Et Saint-Marc dit « Eh bien oui, après tout. » Alors il s'y met, et simplement pour faire plaisir aux gens qui sont là, il écrit son évangile. A-t-il conscience d'être inspiré? Je ne sais pas. Je ne crois pas, mais après tout, c'est possible. Et puis, il a terminé son écrit, et cet écrit circule, et l'Église dit « C'est merveilleux ». Avec son sens surnaturel, elle comprend que cet écrit est inspiré, et elle l'inscrit au canon des Écritures. Quand saint Paul écrit ses épîtres, il n'avait sûrement pas conscience d'être inspiré. Il a écrit des épîtres qui ne sont pas au canon des Écritures, au moins une. Vous savez qu'il y a deux épîtres aux Corinthiens. Dans l'une des deux, je ne sais plus laquelle, je devrais savoir. Je sais simplement qu'il fait allusion à une troisième épître que nous n'avons pas conservée. Tout simplement parce que l'Église ne l'ayant pas retenue, elle n'a pas été recopiée et elle n'est pas parvenue jusqu'à nous. Alors je suppose que vous comprendrez maintenant la définition que je vais vous relire. L'inspiration est une intuition surnaturelle par laquelle l'Esprit-Saint a poussé et excité les écrivains sacrés à écrire et les a assistés pendant la rédaction, de telle sorte qu'ils concevaient exactement pour les rapporter fidèlement et exprimer avec une vérité infaillible tout ce que Dieu ordonnait et seulement ce qu'il leur ordonnait d'écrire. Conséquence de l'inspiration, l'inérance. Cela veut dire qu'il n'y a aucune erreur dans l'écriture, puisqu'elle a Dieu pour auteur au niveau de l'agent. Il ne peut pas y avoir d'erreur dans l'écriture. Elle est sans erreur. Je n'insiste pas, mais je sais qu'il se lève des questions chez l'un ou l'autre d'entre vous. Mais tout cela va se trouver réglé ensuite pour les questions annexes.
Oui.
D'abord, quel texte est inspiré? Le texte inspiré, c'est le texte original. Hébreu, par exemple, si le texte a été écrit en hébreu. Grec, s'il s'agit de celui de Saint-Marc. Ou araméen, s'il s'agit de certains passages de Daniel, du prophète Daniel. Le texte qui est sorti de la tête et de la main de l'écrivain sacré, le voilà, le texte sacré. Le texte inspiré. Et je dis tout de suite, pour ne pas oublier de le dire, que ces textes s'adressent directement à un milieu déterminé, vivant en un lieu déterminé, à une époque déterminée. C'est la plupart du temps la raison pour laquelle nous comprenons mal ce qui est dit. Parce que je ne suis pas un hébreu du IVe siècle avant Jésus-Christ, parce que je ne suis pas un juif de cette époque, je ne comprends pas. Pour comprendre, j'ai besoin qu'on m'explique, j'ai besoin de spécialistes. Les spécialistes, on les appelle des exégètes. Ils essaient de restituer le texte, matériellement parlant, parce que les copistes ont fort bien pu introduire des erreurs, et nous en avons pas mal. Il y a des spécialistes du texte, il y a des spécialistes du sens du texte, ceux qui apprennent les langues anciennes, les poteries qui font des fouilles, etc. Tout cela pourquoi? Pour nous restituer l'écriture telle qu'elle est sortie de la plume de l'écrivain. Je pense en même temps à Dieu et à l'instrument humain. C'est ce texte-là qui est inspiré. Pour comprendre ce qu'a voulu dire Dieu, je dois comprendre ce qu'a voulu dire l'instrument humain. Les limites de l'inspiration. Toute l'écriture est inspirée, je vous l'ai dit. Toute l'écriture absolument est inspirée. Certains ont prétendu à un moment donné que l'écriture n'était inspirée que quand elle enseignait des vérités religieuses, mais qu'elle pouvait fort bien se tromper pour le reste. Et l'Église a dit non. L'écriture est inspirée d'un bout à l'autre. Je crois d'ailleurs que l'on aurait pu ajouter que l'Écriture ne nous enseigne que des vérités religieuses, même quand elle n'a pas l'air de le faire. Toute l'Écriture est inspirée, mais encore faut-il comprendre ce qu'elle nous dit. Par exemple, si je lis dans le livre de l'Ecclésiaste que le soleil se lève, que le soleil se couche, etc., ce ne veut pas dire que le soleil fait le tour de la terre. Cela veut dire que le premier jour commence et que le jour commence et que le jour finit. Il faut donc savoir ce que l'auteur a voulu dire. C'est là qu'intervient la question des genres littéraires. Dans la Sainte Écriture, il y a des choses extraordinaires et parfaitement étranges, et on peut parfaitement le comprendre parce qu'ils ont été écrits, ces livres, il y a très longtemps. On peut prendre, par exemple, pour de l'histoire ce qui est en fait un petit roman. Alors voyez-vous, puisque Dieu s'est servi d'instruments humains, il est très important de connaître ces instruments humains, parce que c'est ce que l'instrument a voulu dire que Dieu a voulu dire. J'espère que j'étais assez clair en tout cela. Je n'entre pas dans le détail des premiers chapitres de la Genèse, qui soulèvent des quantités de questions. Mais rappelez-vous le principe, tout cela est inspiré. Et encore faut-il, encore une fois, savoir ce que l'auteur a voulu dire. Il faut donc que je me remette à la place des Hébreux pour lesquels les écrivains écrivaient cela, pour comprendre comment ils comprenaient, comme ils comprenaient, parce que Dieu s'adressait directement à eux. On sait, par exemple, que Marc s'adressait directement aux chrétiens de son temps et pas directement à moi. Cela ne veut pas dire que ça n'ait aucun intérêt pour moi, bien sûr. Le canon des Écritures a été fixé définitivement par le Concile de Trente. Il y a 45 livres dans l'Ancien Testament. Je ne sais plus combien dans le Nouveau. L'Ancien Testament comporte des livres historiques. Ces livres d'historique contiennent parfois ce qui n'est pas exactement de l'histoire, mais plutôt des histoires. Mais là, c'est l'intention de l'auteur qu'il nous faut voir. Il y a les livres sapientiaux, de belles considérations, de belles remarques, de beaux enseignements. Et il y a les livres prophétiques, Épître de Saint Paul, les épîtres de quelques autres apôtres et l'Apocalypse. C'est un livre prophétique d'une certaine manière. Les différents sens de l'écriture. Il y a le sens littéral, c'est-à-dire ce que l'auteur a voulu dire exactement. Il y a le sens allégorique, typique ou figuratif que l'auteur humain ne soupçonnait peut-être pas. Par exemple, quand l'écrivain sacré nous racontait qu'Isaac, chargé de son bûcher, de son fagot, gravissait les pentes du mont Moria avec son père Abraham pour y être immolé là-haut. Quand l'auteur dit cela, il ne se doutait probablement pas qu'il décrivait par avance, de façon typique, le chemin de la croix. Je prends cet exemple-là, c'est le sens allégorique. Il y a dans l'écriture ce sens-là, mais l'écrivain ne le savait peut-être pas. Et puis, il y a le sens accommodatis, qui ne vaut rien. C'est une manière d'illustrer un beau sermon et un beau texte avec des phrases de l'écriture que l'on prend un peu n'importe comment. Je prends un exemple. Le cardinal Newman disait la messe très vite. C'était un très saint homme, pourtant. Et quelqu'un le lui reprocha un jour. Il répondit « C'est à cause de l'écriture que j'ai la messe vite. Il est écrit en effet « Ce que tu as à faire, fais-le vite. » Or, cette phrase est adressée à Judas au moment où il va trahir son maître. Et ce saint homme de Newman avait l'impression de trahir Jésus quand il disait la messe. C'est le sens accommodatis. Mais ce sens-là n'est pas dans l'écriture. J'en ai fini pour aujourd'hui.